sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! L'épisode d'aujourd'hui a lieu avec une expatriée au Canada, Marie-Sophie Sylvestre. On pourrait croire que demeurer dans le même pays n'est pas réellement une expatriation, mais c'en est bien une, croyez-nous. Marie-Sophie nous raconte comment sa passion pour les chevaux l'a amenée à vivre son rêve et à démarrer son entreprise à Calgary, en Alberta. Salut Marie-Sophie, comment ça va?
Salut, ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu nous apportes une toute nouvelle expérience sur le podcast.
Yes!
Donc, en fait, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, Marie-Sophie. Premièrement, comment t'en es arrivée à être expatriée? C'est quoi l'histoire de Marie-Sophie jusqu'au jour où elle se retrouve à Calgary?
En fait, moi, c'est comment ça a commencé? Je vais commencer en allant vraiment jeune, autour de 15 ans. Donc, quand j'avais 15 ans, mes parents se sont séparés. Et donc, ça faisait 15 ans que j'habitais dans la même maison, dans le même quartier, dans la même école, j'avais les mêmes amis. C'est comme si la vie était vraiment très stable. Et quand mes parents se sont séparés, pour moi, ça a été là, vraiment épouvantable du fait que et là, j'allais déménager, j'allais changer d'école, j'allais... Tu sais, vraiment, je tombais de la stabilité incroyable à l'instabilité incroyable, pour moi, du moins.
Oui.
Puis pourquoi que je dis ça, c'est parce que, justement, j'étais quelqu'un qui était pas vraiment... je voyageais pas tellement, à part au Québec. Je sortais pas vraiment... j'étais jamais allée dans le sud. J'étais jamais vraiment... Anyway. Mais tout ça pour dire que à partir de ce moment-là, on dirait que j'ai toujours été à la recherche de mon chez-moi. Tu sais, je me suis rendu compte que mon chez-moi, c'était plus avec mes parents, c'était plus dans cette maison-là que ça faisait 15 ans que j'habitais, j'en avais plus. Puis j'avais toujours été à la recherche de me dire, ben tant qu'à être à la recherche de mon chez-moi, je trouvais celui-là qui me plaît, celui-là qui me fait vibrer, en fait, puis que mon énergie fit avec cet endroit-là, finalement. Puis,
dans le fond, Marie-Sophie, ce qui arrive souvent, c'est que, tu sais, à un moment donné, on arrive à l'âge adulte ou à peu près, puis on décide de partir de nos propres ailes pour, tu sais, créer ce chez-moi-là, mais dans ton cas, ça t'a comme été imposé, là, soudainement, tu l'as perdu d'une certaine façon, puis là, tu devais te réajuster toi-même, là.
Exactement. Ben en fait, c'est sûr que je suis pas partie de chez moi à 15 ans, bien entendu.
Mais t'as perdu la stabilité à cet âge-là.
Exactement. J'ai comme compris que ça n'allait pas durer toute ma vie d'être justement dans une stabilité chez mes parents qui allaient payer mon loyer et tout. À 15 ans, pour moi, ça m'a vraiment frappée. Puis, j'ai décidé d'un petit peu taire ce besoin-là de trouver un chez-moi en vraiment me laissant aller par la vie, en allant à l'école, en allant avec mon père. Tu sais, on a habité dans un appartement. Après ça, il a acheté une maison. Tu sais, un peu en suivant lui. Sans jamais vraiment me sentir chez moi, mais j'essayais juste de ne pas y penser. Jusqu'au moment où que je me suis rendu compte que non seulement comme où est-ce que j'étais là, mais au Québec, c'était peut-être pas nécessairement ce que j'avais envie de vivre comme environnement, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais vivre comme environnement. Donc, ça s'est fait un peu de fil en aiguille avec mon travail. Donc, au niveau de mon travail, je suis portée à voyager beaucoup. Donc, ça a commencé par au Québec. Donc, moi, je traite des chevaux à domicile, tu sais, je vais chez les gens. Donc, j'ai fait le tour du Québec, donc travailler de l'Abitibi jusqu'à cette île pour travailler. Donc, je me suis mis à voyager de cette façon-là. Par la suite, de voyager aux États-Unis, d'aller dans le Maine, d'aller au Vermont, d'aller en Virginie, ensuite d'aller jusqu'en Floride l'hiver pour le travail. Par la suite, bien, c'est sûr, j'ai... Oui, vas-y.
Donc, parle-nous un petit peu de ça, justement, ton travail. Là. C'est, en quoi ça consiste? C'était quoi le niveau d'études pour t'amener là?
Donc, moi, au niveau de mon travail, je suis thérapeute pour les chevaux. Donc, c'est un peu ce qu'on voit chez les humains. Donc, massothérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute pour les humains. Par contre, moi, je le fais pour les chevaux. C'est vraiment très spécialisé pour ce type d'animal-là.
Avais-tu toujours été en contact avec des chevaux? Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, la thérapie pour les chevaux?
Oui, bien, en premier lieu, c'est sûr que moi, je suis née avec cette maladie-là d'aimer les chevaux. Pourquoi je dis que c'est une maladie? Parce que souvent, ça coûte cher, puis que c'est quand on a cet amour-là, cette passion-là pour les chevaux, on est un peu vraiment intense dans cette passion-là. Mais je suis née avec ça. En fait, j'ai jamais été en contact avec les chevaux par ma famille, par mes amis ou peu importe. C'est vraiment, on ne sait pas d'où ça vient. Mais j'ai toujours eu cette attirance-là envers cet animal-là. Tu sais, que ça soit, je voulais des toutous de chevaux, je voulais que ma chambre, c'est des affaires de chevaux. Puis, éventuellement, mes parents, quand j'avais 6 ans, ils m'ont inscrit dans un camp d'équitation parce que vraisemblablement, ça allait me plaire. Puis, finalement, ça a juste confirmé. Puis là, j'étais vraiment rendue, là, écoute, je parlais que de ça, je voulais que ça. Je voulais devenir vétérinaire pour chevaux. Je voulais travailler, là, je voulais avoir une ambulance pour chevaux. Je voulais travailler avec les chevaux de sport. Ça a vraiment parti de là. Puis
c'est... Hey, mais c'est incroyable, j'ai des frissons. Tu savais déjà depuis que t'es toute petite, tu connaissais déjà ta passion, mais sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, c'est fou.
Moi, sérieusement, là, j'ai jamais compris ça, quelqu'un qui cherchait un emploi puis qui savait pas où s'en allait dans la vie. À l'école, dans ma tête, tu sais, quand on est jeune, on pense que tout le monde vit la même chose, pense les mêmes choses. Donc, moi, dans ma tête, c'était comme, je suis née avec ça, toi aussi, tu devrais savoir, voyons, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est ça que tu disais aux gens. Puis, ils me disaient, par exemple, j'aime ça, jouer au soccer. Joue au soccer, tu sais, fais ça de ta vie. Tu sais, c'est comme, et où la question? Fais ce que tu aimes, fais ta passion. Fait que pour moi, c'était, je suis chanceuse d'être née avec ça parce que je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre à des situations très difficiles parce que j'avais toujours cette vision-là de « whatever, je m'en vais là », tu sais. Puis en fait, être vétérinaire, pour moi, c'était ce qui me rapprochait le plus de ma mission, que je pourrais dire, avec les chevaux. Puis finalement, j'ai rencontré une fille qui... parce que là, on parle de là quand même quelques années où que la thérapie pour les chevaux, ça a toujours existé d'une certaine façon, mais au Québec, on n'en entendait pas du tout parler. Puis j'étais intriguée, donc j'ai décidé de faire une initiation à la massothérapie équine pour voir c'était quoi. Puis écoute, pour moi, ça a été un déclic total. J'ai lâché le cégep genre le lendemain pour m'inscrire dans cette formation-là. Mon père, il capotait. mon père, c'est dans ma famille, c'est bon, des médecins, des ingénieurs, c'est beaucoup de gens qui ont des grandes carrières comme ça.
Fait que pour moi, même temps, il devait, tu sais, en tant que papa, je comprends là, le souci, tu sais, le fait que quand on a des enfants, on est comme toujours un petit peu anxieux pour eux. Mais en même temps, justement, en tant que ton père, connaissant sa fille et sa passion depuis toujours, il ne devait pas être super surpris, même s'il était un petit peu inquiet, là.
Mon père, en fait, je pense qu'il l'a fait un peu capoter. C'est que quand je prends une décision, je ne l'ai pas dans les pieds. Donc, il savait, du moment que j'en ai parlé, il savait que ma décision était déjà prise et qu'il n'y avait aucun mot à dire dessus. Fait que c'est ça qu'il n'a pas aimé. Parce qu'il s'est dit, ah ben, Colin, je ne peux pas rien faire. Même peu importe ce que je vais dire, elle va le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai parti. C'est une formation qui se donnait dans les premières années au Québec. Donc, c'est cette formation-là que j'ai suivie en premier. Puis pour moi, ça a vraiment été juste une introduction à la carrière parce que je suis allée chercher beaucoup plus de connaissances auprès de d'autres thérapeutes. Puis aussi, par la suite, je suis allée aux États-Unis pour me former avec la thérapeute olympique des États-Unis. Donc là, j'ai appris là, énormément avec elle. Donc, ça a parti un peu de ça, là, mon chemin de carrière. Puis encore là, vu que je suis quelqu'un de déterminé, pour moi, c'est important de... Tu sais, tout de suite, j'ai quand je suis sortie de mon... J'avais mon certificat du Québec. Tout de suite, j'ai ouvert la machine, puis je travaillais déjà partout au Québec. Puis j'avais déjà de la clientèle partout au Québec. Puis pour prendre l'expérience dans le métier, parce que veux pas, quand tu sors des études, t'as pas tout vu. Hein, t'as pas... Mm-hmm. En fait, t'as rien vu.
T'as pas l'expérience, oui, c'est ça.
Exactement. Donc, je suis allée chercher l'expérience auprès de ces clients-là, que je suis extrêmement reconnaissante, d'ailleurs, qui m'a fait confiance. Puis par la suite, je me suis rendu compte que j'avais vraiment encore là une mission à faire là-dedans, mais plus au niveau du sport, au niveau du sport olympique, au niveau des athlètes qui veulent vraiment aller se surpasser, qui ont vraiment un but puis qui veulent aller les atteindre. Fait que pour moi, c'est de me rapprocher de ces personnes-là qui ont un but puis qui sont prêts à tout faire pour y arriver. Ben, c'est un peu le même type de personnes que moi, donc c'est pour ça que c'est avec eux que je travaille principalement, puis c'est pour ça que je voyage à travers le Canada, à travers les États-Unis, avec eux, parce que malheureusement ou heureusement, pour pouvoir se qualifier pour des grandes compétitions, ben il faut voyager, on n'a pas le choix. Donc moi, je suis là pour les accompagner.
Génial. Donc là, de fil en aiguille, tu te promenais de plus en plus au Québec, au Canada, aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'amène là au moment où tu fais tes valises puis tu t'en vas vivre à Calgary? Pourquoi? Est-ce que c'était ce que tu voulais ou c'était nécessaire? Ou les deux?
Moi, en fait, c'était pas nécessaire, en fait, premièrement. Deuxièmement, comme j'ai mentionné au début, j'ai toujours été à la recherche, même si je l'avais mis de côté, toujours à la recherche de mon chez-moi. Que je savais au fond de moi que c'était pas au Québec. Puis malgré que j'avais visité le Québec, puis sérieusement, je trouve ça vraiment beau comme province, puis j'adore venir au Québec pour voyager. Mais même si j'avais fait le tour du Québec, même si j'avais fait une bonne partie des États-Unis, tu sais, aller en Floride l'hiver, il y avait jamais une place que ça m'avait vraiment fait « wow, comme je veux habiter ici ». Puis, en fait, qu'est-ce qui a fait que je suis allée à l'autre bout du Canada, donc en Alberta, à Calgary, c'est que j'ai une amie avec qui je travaillais au Québec qui, elle a décidé de déménager en Alberta. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui je parlais tous les jours, puis qu'elle me mentionnait bon, à quel point c'était le fun, puis tout, puis que faudrait que j'aille la visiter, blablabla.
Qu'est-ce qui était le fun pour elle et qui aurait pu l'être pour toi, mettons? Là, c'est quoi qui était vendeur dans l'histoire?
Bien, au début, en fait, c'est sûr que je pensais pas déménager là-bas. Là, je peux pas dire que c'est elle qui m'a convaincue de déménager. Par contre, c'était beaucoup au niveau de l'énergie, au niveau des gens, au niveau du mode de vie. Donc, un mode de vie qui est beaucoup plus relax, beaucoup moins stressé. Beaucoup moins opté sur la performance. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement dur envers elle-même, puis que, tu sais, mes parents aussi étaient durs envers moi-même, pas méchamment, mais parce qu'ils voulaient vraiment le meilleur pour moi. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est sûr que d'avoir un peu moins de pression sociale, je trouvais ça m'avait, je sais pas, attiré d'une certaine façon, mais c'est aussi de... c'est dur à expliquer, mais de la façon qu'elle m'en parlait, je trouvais que ça vaudrait la peine que j'aille la visiter, simplement parce que, anyways, qui veut pas aller voir les Rocheuses, tu sais, puis voir l'eau turquoise, puis, tu sais, l'Alberta, c'est un voyage par excellence, peu importe que tu veux y habiter ou non, mettons. Donc, pourquoi que ça m'a pris 2 ans avant d'aller la visiter? Parce que j'étais en couple à ce moment-là, puis écoute, moi, je suis une personne de feeling, puis j'avais ce feeling-là que quand j'allais arriver en Alberta, j'allais pas vouloir revenir. Donc, et je savais que mon conjoint du moment aurait pas été prêt à me suivre. Donc, si j'étais allée en Alberta, puis que comme de fait, ben, j'aurais voulu rester, je sais que ça aurait pas été possible à ce moment-là. Puis, je serais revenue et j'aurais été comme pas bien parce que être obligée de vivre dans une situation que j'aime pas quand je sais qu'il y en a un autre que j'aimerais pour quelqu'un ou peu importe. Je trouvais que c'était un peu sketch comme situation. Ouais. Mais encore là, c'était du feeling parce que peut-être que ça aurait été complètement différent. Mais fait que ça m'a amenée à attendre et à repousser ce voyage-là jusqu'à temps que je me sépare. Puis la séparation a été vraiment un choix. Et un choix des deux côtés, puis un choix ultra réfléchi parce que je peux pas dire que j'avais pas une relation extraordinaire. Tout le monde écoute, j'ai reçu des messages là, de me dire, là, voyons donc, tu sais, ça peut être difficile parfois une relation, tu sais, des gens n'avaient pas, les gens aimaient tellement notre couple qu'ils voulaient qu'on reste ensemble, puis finalement, on est deux personnes extraordinaires, mais pas faites pour être ensemble, fait que c'est ça qui a fait que je suis allée de l'avant en allant avec la séparation. Mais ça m'a donné un petit peu le coup de dire, bon, là, il n'y a personne dans ma vie pour m'empêcher de faire quoi que ce soit. Fait que peu importe ce qui arrive, je prends mon billet, je m'en vais voir ma chum. Puis si j'ai envie de rester, ben, je resterai. Puis sinon, ben, je reviendrai. Mais au moins, je pars la tête vide et j'y vais.
Absolument. Puis là, on est en quelle année? On est quand?
Là, on est en 2017. Oui, on est en novembre 2017 à ce moment-là.
Novembre 2017, donc il y a à peu près un an et demi.
Exactement. Donc, je pars et je dois t'avouer que, parce que c'est vraiment une drôle d'histoire, donc il y a beaucoup de détails, mais quand que je me suis séparée de cette relation-là, pour moi, ça a été très difficile parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans la relation, mais beaucoup de travail aussi. Puis, avant de partir pour l'Alberta, je suis allée rencontrer... une personne, en fait, qui est un petit peu style naturopathe, coach de vie, kind of, tout ça en même temps. Puis, j'avais dit, là, moi, j'ai envie, là, je sais, je pars en voyage, puis j'ai envie un petit peu de me défaire, de me faire un petit reset d'émotion pour être prête à ma nouvelle vie, qu'elle soit en Alberta ou qu'elle soit au Québec, tu sais, je m'en fous, mais je veux être prête, tu sais, je veux me libérer de certaines émotions, de certaines croyances limitantes que j'ai. C'est ce que j'ai travaillé avec elle, puis je lui avais dit. Puis en même temps, à la fin de cette relation-là, je suis prête, justement, là, je suis prête à mettre l'énergie, je suis prête à mettre le temps. J'ai trouvé la bonne personne pour, justement, faire ma vie avec elle et voilà, tu sais, bâtir une famille et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque émotionnellement, qui me bloque de trouver cette personne-là. Donc, on avait fait un petit ménage. De tout ça. Puis c'est tout de suite après ça que je prenais l'avion, j'arrivais en Alberta et je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, tout a déboulé pour elle. Toute la vie d'aujourd'hui, c'est positif par-dessus positif, même si c'est difficile, parce qu'on ne peut pas dire que c'est facile de déménager à l'autre bout du pays ou dans un autre pays. Je ne l'ai pas faite pour l'autre pays, mais donc voilà, donc
donc là, tu commençais ta nouvelle vie, tu le savais. Tu as mis les pieds sur en terre en Alberta, puis là, tu savais à ce moment-là que tu débutais une nouvelle vie, un nouveau chapitre de cette vie-là, du moins.
Moi, ça a été là, exactement, comme je l'ai dit depuis le début, je suis vraiment une personne de feeling, même si, puis pour de vrai, là, je suis ultra scientifique, en fait. Là, je suis quelqu'un que je suis tout en train d'ostiner les gens, donne-moi des preuves, c'est quoi la science en arrière de ça, mais je suis un gros mélange de feeling et de science. Quand que je suis arrivée en Alberta, c'est drôle parce que je suis arrivée le soir, il était 10 heures. Sérieusement, j'ai rien vu de ce que ça avait l'air, l'Alberta, en arrivant. Mm-hmm. Puis, dès que j'ai sorti, je savais l'énergie. Écoute, j'ai dit « wow, c'est malade ». Tu sais, j'étais émerveillée. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais c'est comme ça quand tu es en voyage. » Oui, mais moi, j'ai voyagé, là, écoute, pendant là, au moins 4 ans, j'ai juste fait ça, voyager à toutes les semaines. Je sais c'est quoi, là, voir des nouvelles choses. Je sais c'est quoi quand c'est beau. Mais là, c'était différent. C'était vraiment ailleurs. C'est fou. Puis je te dirais que, encore là, ça a été un peu comme j'ai dit plus tôt, les gens, comment que... Les gens sont accueillants, les gens sont fins, les gens sont souriants, sont courtois ici. C'est très comme anglais, là, ici, dans le fond. Tu sais, les gens, ça ouvre les portes, les gens sont ultra polis.
Si je comprends bien, Marie-Sophie, là, quand tu es partie cette fois-là où tu es arrivée en Alberta, c'est la fois où tu t'es installée, là, dans le sens que tu n'es pas revenue au Québec pour y penser pendant une couple de mois. Là. C'est cette fois-là que ça s'est passé.
Dans le fond, oui. Comment ça s'est passé, c'est que 2 semaines après, je changeais déjà mon adresse pour l'Alberta, en fait. Puis là, ça a été, là, je vais vous le dire, un vrai coup de tête. Tu sais, c'est comme, oui, c'est ça que je veux. Puis comme je dis, moi, quand je suis très persévérante, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc là, ça a été all-in, changer mes adresses et tout. Et tout ça sans le dire à personne, sans le dire à ma famille, parce que je savais qu'elle allait essayer de me convaincre.
Oui, ils allaient faire le saut après si peu de temps, là, oui, c'est ça.
Exactement. Donc, dans le fond, je suis restée là pendant justement 2 à 3 semaines, je ne peux pas dire exactement le nombre de jours. Je suis revenue au Québec pendant 1 mois, puis je suis retournée en Alberta après ça pendant 1 autre mois, parce que c'était un petit peu pour créer la transition entre le Québec et l'Alberta, de commencer à bâtir ma business ici, faire des connexions, des connaissances pour pouvoir au moins pas être tout seul, me faire un petit réseau ici avant de faire vraiment le saut de déménager complètement. Ensuite, pendant l'hiver, c'est sûr que moi, ben, je travaillais en Floride, donc j'ai voyagé beaucoup. Mais toujours en retournant au Québec, travaillant, allant aux États-Unis avec mes athlètes, revenant en Alberta. Puis finalement, ben, c'est en mars que j'ai voyagé ma Toyota Matrix du Québec tout seul jusqu'en Alberta avec mon chien, avec tout mon stock dedans. C'était full, genre, ma voiture était droppée, là, sérieusement, là, tu sais, c'était vraiment pas bon pour ma suspension, puis je voyais pas mes angles morts, je voyais rien en arrière, c'était plein, j'avais tout mon stock, le stock de mon chien, puis là, on partait pour l'aventure, et pour la première fois de ma vie, ben je partais du Québec jusqu'en Alberta en auto, puis je traversais le Canada.
Puis tu t'en allais chez ton ami ou tu t'étais déjà trouvé un logement?
Oui, donc pour le moment, ben, je m'en allais chez mon ami. Donc, je louais une chambre dans la maison. Puis, éventuellement, justement, ben j'ai eu mon premier appartement en Alberta en octobre passé. Donc, ça fait comme 6 mois, dans le fond, que je suis on my own avec, en fait, mon nouveau conjoint qui a été... la première personne que j'ai rencontrée en Alberta, en fait, mais qui a couru après moi pendant une couple de mois parce que je n'étais pas intéressée.
Mais c'est fou. En fait, tu as préparé ton nid pendant à peu près, mettons, 4 mois. Tu t'es trouvé l'endroit où tu allais aller. Tu as comme, dans le fond, placé tes cartes là, d'une certaine façon avant de débarquer là. J'imagine qu'à travers ce moment-là, tu as informé ta famille, tes proches que tu allais partir. Ça a été quoi leur réaction? Parce que là, je veux dire, à un moment donné, tu leur as peut-être pas dit que tu avais changé d'adresse, là, mais après ça, ils t'ont vu partir.
Ben dans le fond, les deux, quand que j'ai fait mon premier voyage, j'ai pas mentionné que j'avais fait mes changements d'adresse, mais je leur avais tous dit que j'aimais beaucoup l'endroit puis que je pensais sérieusement déménager là pour faire une petite introduction à. Bien entendu, mon père est tout de suite embarqué sur les questions, puis les « ben là, voyons donc », puis parce que lui, mon père, il me connaît, fait qu'il savait que dans le fond, j'avais déjà pris ma décision, puis que j'essayais juste de dire de façon sympathique. Donc, voilà, il s'est mis un petit peu à me donner tous les points pourquoi que ça serait pas une bonne idée que je fasse ça, pour finalement, après ça, ben me dire « c'est quoi, comme, t'es jeune, t'es capable de faire ce que tu veux, comme, si ce que tu veux, fais-le, puis go for it. » Fait que voilà, donc, ça a été ça pour mon père. Ça, pour ma mère, ça a été... Ma mère, c'est quelqu'un qui essaie vraiment d'être... comment je pourrais dire? Ma mère, elle aime beaucoup plaire aux gens, donc, c'est sûr qu'elle a tout de suite voulu être contente pour moi, puis... m'appuyer là-dedans. Par contre, je savais que c'était difficile pour elle. Elle a trouvé ça difficile, inquiète aussi que je sois si loin. Mais en même temps, je suis chanceuse parce qu'avec ma famille, on n'est pas une famille qui se voit tout le temps, mais on est une famille qui, quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Donc, on est capable d'avoir des relations quand même à distance. Sans que ça paraisse tant que ça que je sois à l'autre bout du Canada. Tu sais, quand je viens les voir, puis c'est, tu sais, on n'était pas des gens qui se voyaient toutes les semaines de toute façon. Fait que même si on se voit aux 2 mois, ben ça fait pas tant de changements sur nos habitudes, disons. Fait que c'est ça. Tu sais, ma sœur, elle, ça a toujours, elle est comme bon. Ma sœur est toujours sa trotte, fait que tu sais, whatever. Elle, c'est juste du, c'est normal. Fait que. Fait que voilà, non, ça a été quand même bien pris pour de vrai. Puis je suis quelqu'un justement qui est... Oui, vas-y.
Vas-y, non, mais vas-y, termine, je vais te dire. Vas-y.
Je suis quelqu'un justement qui est comme ça. Je pars sur des projets, puis tout le monde le sait que je suis comme ça. Fait que ça l'a pas surpris tellement les gens, je te dirais. Fait que c'est pour ça que ça a quand même été bien pris.
Ça s'est bien passé. Mais quand même, je dirais que, en fait, je voudrais savoir les interrogations que ton père se posait ou se pose sont quand même probablement réelles. Est-ce que ça t'amenait à toi ou est-ce que ça t'a fait réfléchir ou est-ce que toi, tu avais certaines inquiétudes que tu partageais quand même avec lui? Parce que je veux pas, on décide de se lancer, on sait que ça sera pas parfait. Est-ce que tu avais comme des questions qui demeuraient sans réponse avant de partir qui te stressaient un petit peu ou tu étais bien confiante que tout allait aller rondement?
En fait, je suis quelqu'un qui est très terre-à-terre, donc c'est sûr que je ne suis pas naïve, donc je savais que je ne m'embarquais pas dans quelque chose qui allait être facile. Par contre, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il faut, donc moi, je me disais tout le temps, si j'ai de la misère avec ma business pour la partir, ben je vais aller travailler au Tim Hortons. Tu sais, je veux dire, toujours en ne pas voulant le faire, mais tu sais, je savais qu'il y avait toujours une option. Tu sais, je peux pas... Je serai pas dans la rue, jamais. Je vais toujours trouver une façon. Donc, pour moi, c'était... Est-ce que j'étais stressée? Pas du tout, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus excitée qu'autre chose. Puis pour mon père, c'était beaucoup... ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'au début, c'était vraiment sur le coup de l'émotion. Tu sais, toutes les... tout ce qui faisait peur, c'était vraiment sur le coup de l'émotion de comment je... Qu'est-ce que je peux dire pour un peu la dissuader? Mais au final... C'était pas vraiment des choses qu'il pensait réellement. Puis c'est pour ça qu'après ça, il m'a juste dit, garde, vas-y. Parce que pour moi, j'avais déjà bâti une business au Québec qui était, tu sais, on s'entend, là. Je dis tout le temps aux gens, quand ils me donnent des excuses, moi, je masse des chevaux. Fait que si je peux faire une vie en massant des chevaux, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Fait que ça a toujours été un peu ça, comment que je voyais ça. J'étais plus confiante de la vie. Comment ça allait être facile parce qu'il y a beaucoup de chevaux en Alberta, beaucoup plus de thérapeutes, donc c'est beaucoup plus connu. Tu sais, je pensais vraiment que je m'embarquais dans quelque chose de plus facile que ce que j'avais bâti au Québec, sans savoir qu'au final, ça allait être complètement différent. Donc, sur le coup, en déménageant, j'avais aucune crainte, je suis allée all-in, ça me faisait pas peur. Là où ce que ça s'est, puis comme on se disait un peu avant l'entrevue aussi, c'est la période lune de miel, là, je la vivais, là, tu sais, de m'en aller dans une nouvelle place, tout va être beau, je vais réussir à tout faire, j'ai déjà fait, je suis persévérante, blablabla. Par contre, c'est vraiment après la lune de miel que là, j'ai fait, OK, voici la réalité. Puis ça, c'était tout autre que ce que je pensais. Fait que c'est pour ça que quand je suis partie, j'avais pas peur. Puis j'étais assez confiante que mes parents aussi, tu sais, avaient pas peur pour moi.
Est-ce qu'il y a quelque chose, là, si on termine sur, disons, le chapitre du départ, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou que tu referais différemment pour te faciliter là, l'expatriation que tu vis?
Oui, probablement que je m'informerais plus au niveau du titre de la vie ici. Pour moi, dans le fond, c'est pas difficile de vivre ici en tant qu'individu. C'est plus au niveau de la business que c'est complètement différent de ce que je pensais que ça allait être. Donc, d'être un petit peu plus préparée. Je suis une personne de coup de tête. Parfois, c'est bon. Parfois, c'est pas bon. C'est sûr que ça aurait été à changer. J'aurais peut-être fait plus lentement le déménagement que j'ai fait avec un peu plus en connaissance de cause afin d'être mieux préparée. Déjà, juste au niveau monétaire, d'avoir été peut-être un peu plus préparée à c'est quoi les coûts qui s'en viennent avec ce déménagement-là pour m'enlever un stress financier, finalement.
C'est toujours un petit peu dur à gager, je trouve, justement, là, le moment du départ. Parce que ça me fait penser à ça. Là. Il y a plusieurs expatriés à qui j'ai parlé qui vont plutôt me dire tu sais, j'ai attendu trop longtemps le moment parfait, j'aurais dû partir avant, ça se serait bien passé quand même, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est comme si de toute façon, il y a une certaine difficulté dans l'organisation qui se passe soit avant de partir, soit en arrivant, qui est que, tu sais, il faut s'adapter à quelque chose, à une chose à laquelle on s'attendait peut-être pas. Puis c'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas ce qu'on pensait. Dis-moi donc, justement, c'était quoi, là, le chunk, là? C'était quoi le morceau qui était comme plus, qui était différent de ce que tu avais prévu, là, dans ta façon de voir ce qui allait arriver?
Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'emploi, les gens sont tellement différents ici que je pensais, tu sais, je me disais, j'ai bâti une business au Québec, je vais juste recréer la même chose ici. Par contre, ça ne fonctionne pas partout comme ça parce que les gens sont tellement, le marché est tellement différent que je ne pouvais pas être comme j'étais au Québec ici. Et c'est pour ça que pendant des mois, j'ai un peu essayé de reproduire ce que je faisais au Québec et ça m'a un petit peu mis, pas dans le trouble, mais tu sais, ça m'a vraiment freiné, exactement ralenti. Puis, bien, c'est sûr qu'après ça, il y a plein de, tu sais, quand l'argent rentre moins que ce que tu penses, parce que là, ici, on est, tu sais, on parle pas juste d'être expatrié, là, on parle d'être travailleur autonome, tu sais, ça aussi, c'est un autre challenge. Donc là, quand que l'argent rentre pas à toutes les deux semaines ou à toutes les semaines, on vit une autre réalité aussi. Donc, ça a été vraiment de gérer tout ça. De gérer le stress que je gérais déjà au Québec, mais là, en étant dans un endroit tellement différent, je veux dire, moi, j'avais, tu sais, j'avais un couple d'amis, c'est tout ce que j'avais ici. Donc, on s'entend que j'étais dans une langue, tu sais, différente de la mienne, donc tout ici, c'est en anglais. Pas de cercle d'amis, pas de famille, pas, tu sais, c'était de gérer tout ça à la fois qui demande vraiment une gestion de soi-même qui est quand même c'est faisable. Puis c'est pas, puis c'est, ça dépend de ta personnalité aussi, parce que comme tu dis, il y a des gens qui ça, ils ont attendu trop longtemps avant de faire le move. Il y en a qui, comme moi, ben faire le move, c'est pas difficile. Après ça, c'est de rester dans le move, finalement. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, ça a été vraiment le côté monétaire, le côté bâtir ma business ici. Tandis que si j'avais juste déménagé avec un emploi, probablement que j'aurais trouvé ça un petit peu plus simple, du moins un peu moins stressant, parce qu'au moins j'avais l'argent pour faire l'épicerie, l'argent pour payer le loyer, l'argent pour payer toute la voiture et tout et tout.
Mais tu poursuis quand même cette entreprise-là qui te fait voyager. On ne savait pas si on allait faire ce podcast-là en direct de la Floride ou de l'Alberta. Tu continues à avoir un rythme de vie qui fonctionne autour de ton entreprise, mais justement, peut-être qu'un autre expat, le travail va être un peu accessoire, tandis que toi, c'est prioritaire. Là, tout tourne autour de cette priorité-là qui est de faire rouler ton entreprise pour faire rouler ta vie, finalement.
Exactement. Tu sais, c'est toujours une question de choix. Je pourrais demain matin aller travailler n'importe où, salarié, puis ça m'enlèverait beaucoup de stress. Mais pourquoi que je le fais pas? C'est parce que, comme je dis depuis le début, moi, j'ai une mission dans ce domaine-là à accomplir. Puis c'est ça que je fais à tous les jours. C'est de travailler là-dessus à comment je peux justement me faire connaître dans ce monde-là. Pas parce que j'ai besoin de cet argent-là. Parce que vraiment, ma mission, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ma business a toujours, toujours passé dans les priorités dans ma vie. Puis c'est pour ça aussi que c'est important pour moi d'avoir un conjoint qui comprenait ça, parce que ça n'aurait pas fonctionné, mais pas du tout, parce que justement, je voyage beaucoup, je mets beaucoup d'énergie, je pense tout le temps à ça. Mais c'est toujours aussi de trouver l'équilibre, bien entendu. Je ne suis quand même pas workaholic, pas capable d'arrêter. Mais oui, c'est vrai. C'est toujours une question vraiment de choix.
Lui, ton conjoint, qu'est-ce qu'il fait?
Donc, mon conjoint, lui, il est au début, en fait, d'une entreprise. Donc, il crée sa propre entreprise également. Donc, c'est un Québécois aussi, en fait, que j'ai rencontré ici. Puis que finalement, il est retourné au Québec, il est revenu me rejoindre. Puis, c'est une compagnie dans le domaine des sports. Je peux pas vraiment en dire plus parce qu'il est en début et que c'est un peu secret.
C'est pas lié aux chevaux, là.
C'est pas lié aux chevaux du tout. C'est une business complètement différente, mais qui est reliée à lui. C'est quoi ses passions? Fait que c'est sûr que c'est super le fun parce qu'on se comprend. On se pousse les deux là, à aller plus loin puis à pousser nos limites. Par contre, on est deux jeunes entrepreneurs qui partent une business à l'autre bout du Canada. Fait que c'est quand même une bonne pas une problématique, là, mais un bon challenge qu'on vit les deux ensemble.
Ensemble, c'est ça. Puis dis-moi donc rapidement là, un aperçu de ton quotidien dans ton entreprise. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es en contact avec les chevaux tous les jours? Est-ce que tu es plus en recherche client au quotidien? Comment ça se passe?
Donc, au niveau de ma business, en fait, je suis en grosse restructuration dans les dernières semaines. Donc, ça bouge beaucoup. Je dirais que ça joue entre une par semaine, une journée à deux journées de chevaux que je vais vraiment sur place traiter les chevaux. Par la suite, c'est beaucoup de gestion, d'organisation, d'horaire pour justement les compétitions de mes athlètes. Ensuite, les voyages au Québec, les voyages justement en Floride ou en Californie pour les compétitions. Donc, beaucoup d'organisations comme ça. Puis, présentement, je suis en train de bâtir une formation en ligne pour donner plus de connaissances justement aux cavaliers professionnels ou les cavaliers qui sont vraiment sérieux dans leur sport et les entraîneurs. Donc, beaucoup, beaucoup de travail de bureau ces temps-ci pour aller créer une grosse communauté, pour leur donner des connaissances, ensuite bâtir cette formation-là et traiter des chevaux. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir une équipe qui travaille avec moi pour pouvoir traiter et travailler et évaluer le plus de chevaux possible et de donner le plus de connaissances possible aux cavaliers puis aux entraîneurs qui souvent se sentent seuls.
Puis où est-ce qu'ils peuvent te trouver justement pour avoir recours à tes services ou avoir des informations?
C'est sûr que Facebook, pour de vrai, c'est vraiment pour le moment la plateforme qui est utilisée beaucoup et qui est stable. Toutes les autres sont un peu en restructuration également. Donc, j'ai mon profil personnel, donc à mon nom, Marie-Sophie Sylvestre. Ils peuvent m'ajouter comme amie. Sinon, j'ai aussi la page. Et pour ce qui est des cavaliers professionnels et entraîneurs qui pourraient écouter, il y a un groupe Facebook que c'est vraiment, ça réunit juste la communauté de cavaliers et d'entraîneurs qui s'appelle Mastering the Podium. Qu'ils peuvent aussi, de toute façon, s'ils vont sur mon profil ou sur ma page, ils vont voir facilement comment y accéder. Donc, c'est pas mal là, les plateformes où ils vont avoir toutes les informations qu'ils ont besoin ou du moins accès à moi pour poser des questions.
Génial. Maintenant, dis-moi, retour au Québec, ça sonne comment? Comment tu t'enlignes? Est-ce que tu penses retourner bientôt, à long terme, pas du tout?
OK. En fait, je retourne au Québec pour travail d'affaires et voir ma famille à la fin avril. Mm-hmm. Par contre, à long terme, je me vois pas du tout revenir au Québec. En fait, une des raisons aussi pourquoi je suis restée en Alberta, c'est... tu sais, moi, j'ai 25 ans, donc éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça fonder une famille. Puis, pour moi, quelque chose qui a été vraiment frappant en Alberta, c'est que quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est ici je vais élever mes enfants. Je travaille beaucoup avec des jeunes athlètes de 14 ans, puis je les vois aller, je les vois comment ils agissent avec moi, je les vois comment ils agissent avec leurs chevaux, puis je me dis, aïe, moi, je veux que mes enfants soient élevés avec des jeunes comme ça aussi. Tandis qu'au Québec, je ressentais moins ça. Donc, vraiment, à long terme, autant pour l'endroit, autant pour les sports, tu sais, le plein air et tout, pour les chevaux, autant pour l'énergie. Vraiment, on pense réellement rester ici. C'est sûr, c'est une petite pause qu'on a dans la dernière année, mais ça va être passé. On va vraiment pouvoir bâtir encore plus nos projets, notre famille, puis rester à long terme.
Donc, on peut dire que tu as trouvé ton nouveau chez toi.
Oui, on peut dire finalement, j'ai trouvé mon nouveau chez moi. Tu sais, le déménagement a été rapide. Par contre, j'ai quand même voyagé beaucoup et ça n'a pas été le premier voyage que j'ai fait. Ah, je déménage là, tu sais. Fait que j'ai encore là une question de feeling. Je savais qu'en m'emmenant ici, ça allait pas être facile, mais je savais que c'était la place. Puis c'est encore le cas. Après un an et demi, puis même après toutes les problématiques qu'on est passées à travers, mon conjoint et moi, on s'est jamais, jamais posé la question à savoir si on reviendrait au Québec. Jamais.
J'adore ça. Donc, j'arrive à la rafale de questions de la fin de l'entrevue. C'est pas nécessairement lié à l'expatriation, mais les petites questions que je pose à toutes mes invitées. Donc, première question, quelle est ta meilleure série Netflix à vie, si évidemment tu écoutes des séries sur Netflix?
ma meilleure série, je sais pas, mais j'ai envie de te dire Outlander, sérieusement. Okay. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai des origines écossaises. Puis je sais pas pourquoi ça vient me chercher. J'adore ça.
Super. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, c'est quoi le quel est le dernier que tu as écouté?
Oui, j'écoute des podcasts. Le dernier que j'ai écouté, je pense que c'était le Wake Up Call de Roxy Valade. Mais sérieusement, je suis pas constante dans les podcasts que j'écoute. J'en écoute juste plein, puis j'aime beaucoup la variété. Donc, mais je pense que oui, c'est lui que j'ai écouté en dernier.
Excellent. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
J'adore les livres parce que j'aime ça, les livres papier. Je suis une personne aussi qui a un agenda papier. Par contre, les audiobooks, je suis tout le temps sur la route, donc j'en ai aussi. J'adore les deux. Qu'est-ce que je lis présentement? En fait, c'est j'ai un livre que j'ai trouvé dans la maison justement que j'habite et ça s'appelle « Opening the Sense of the Soul » et c'est un livre sur les chakras. Donc, je m'informe c'est quoi les chakras. Je trouve ça bien intéressant.
Super. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
Hey boy! Oups,
là, je te change de pays.
Oui, c'est
ou
ça.
Ou pas, de province peut-être.
Hey, je ne saurais pas quoi répondre parce qu'il y a tellement d'options que trop de choix. Là. J'ai déjà fait un voyage au Pérou, en fait. J'avais adoré ça, puis j'avais adoré l'expérience de vivre dans un bidonville, en fait, au Pérou. Puis on dirait que j'ai goût de te dire, là, un an, là, je m'en irais réhabiter là.
Super. Dernière question, d'après toi, est-ce que l'on est expatrié ou on le devient?
Les deux. Sérieusement, moi, je pense que je suis pas née expatriée puis que je suis devenue, mais je pense clairement qu'il y en a qui sont nés pour l'être.
Donc, ça dépend vraiment des personnes et des expériences.
Oui, exactement.
Eh bien, Marie-Sophie, merci beaucoup d'avoir été là sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant puis différent comme histoire également.
Bien, merci à toi. Sérieusement, ça m'a fait super plaisir.
Un gros merci. Il est assez clair que Marie-Sophie a trouvé sa maison, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive quand on écoute son instinct et qu'on est prête à travailler pour aller au bout de nos rêves. Son histoire, elle ne l'a pas volée, elle l'écrit page par page à tous les jours. Restez avec nous pour voyager dans l'univers de d'autres femmes québécoises expatriées qui ont aussi vécu des superbes aventures. Pour poursuivre l'écoute de ces expériences qui nous font sortir de nos confortables pantoufles du Québec, je vous invite à vous abonner au podcast Texas Mama Blog Expat. Aussi, il y a un accès pour les Québécoises qui sont déjà expatriées au groupe Facebook Québécoises Expat. De même, si vous êtes une future expatriée ou potentiellement future expat, vous pouvez me contacter et je pourrai également vous diriger vers un groupe. Merci et bonne écoute!